depuis des mois est dit. Sauf que, et c'est la question fondamentale, si la justice déjà se donne les mots, a envie de travailler, mais le problème qu'elle va rencontrer, c'est celui de la traçabilité des fonds, parce que autant de l'argent qui est déposé sur des comptes laisse des traces, autant de l'argent liquide de la main à la main, c'est compliqué. Donc la vraie question pour la justice, si elle daigne faire son travail, ce qui pour l'instant je ne suis pas totalement convaincu, c'est que l'argent liquide, il va falloir le prouver. Et on peut savoir des choses et être dans l'incapacité de le prouver.
Alors quand même, c'est assez lourd, hein, des amendements, des contreparties financières, des parlementaires qui seraient des porteurs. Le Canard Enchaîné les avait même appelés des mères porteuses. C'est quand même, on n'est plus dans le lobbying, on est dans la corruption. À moins que le lobbying ne soit que de la corruption, ce qui n'est pas du tout impossible. Voyons ce que dit un parlementaire, monsieur Jean Charbonnel, président de la commission des finances à l'Assemblée au début des années 70, ministre de l'Industrie de 1972 à 1974, qui est sorti du gouvernement suite à l'affaire Lip, et qui nous apporte quelques précisions et son témoignage sur ces amendements. Jean Charbonnel.
Encore un petit point de détail.
Si nous parlons d'abord du problème des amendements, là je ne le ferai pas comme homme du gouvernement, ancien membre du gouvernement, mais comme président de la Commission des Finances. C'est à ce titre... Et c'était une des fonctions d'ailleurs de la Commission des Finances, de voir passer par ses services tous les amendements de nos collègues parlementaires ayant des incidences financières. Et c'est surtout en séance de la Commission qui m'est en effet arrivé de voir parvenir à la Commission des amendements, des projets d'amendements que tel ou tel de nos collègues déposaient et dont j'avais le sentiment que ces amendements défendaient des intérêts particuliers. Et nous avions même quelques collègues de la Commission des Finances dont nous avions l'impression qu'ils étaient, j'allais dire, un petit peu spécialisés dans la confection ou la retransmission d'amendements ayant cet objet. Et je n'ai pas de doute, je n'ai jamais eu de doute que certains groupes de pression, hein, qui pouvaient d'ailleurs ne pas être le patronat, ça pouvait être, disons, des syndicats agricoles, étaient derrière ces amendements et qui m'a semblé c'était inacceptable avec la dignité des représentants du suffrage universel.
Voilà, l'enquête continue. Mais on aimerait quand même que tout ça soit clair, porté au grand jour et à la connaissance des citoyens que nous sommes. Un autre témoignage sur les méthodes et les pressions de l'UIMM, c'est le témoignage de monsieur Joseph Pinard, député PS de Besançon, conseiller général du Doubs de 73 à 2001, agrégé d'histoire et qui nous apporte les précisions que voici.
Joseph Pinard, vous avez été député de 80 à 86. Vous avez aussi été conseiller général du quartier des Lippes à Besançon pendant le conflit de Lippes. Vous allez nous en dire plus. Et selon vous, il existe des preuves de l'implication de l'UMM dans le financement de certaines campagnes politiques?
Oui, absolument. Des campagnes ont été financées par l'UMM, notamment en 1973 et en 1974. Et il s'agissait à l'époque d'aider massivement des publications qui tentaient d'affoler l'opinion contre les risques de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. C'était le cas en 1974. Hein. Alors, par exemple, il y a eu la diffusion d'un fac-similé de François sur le titre France Matin, hein, alors qui annonçait que si Mitterrand était élu, eh bien, il y aurait tout de suite l'annonce d'un rationnement du kilo de sucre, un litre d'huile, 10 litres d'essence, etc. Alors, il y a eu plusieurs publications de cet mouvement, de cette nature, et elles avaient en commun d'avoir comme directeur de publication un certain Lemonnier, que l'on retrouve...